brasse énormément dans le monde politique, autant du niveau fédéral depuis pas mal depuis hier, et cette semaine aussi du niveau provincial. On n'avait pas le choix de réinviter cette semaine notre chroniqueuse politique, Jacinthe Eve Harel. Et comme on aime dire, jamais trop de Jacinthe Eve.
Non.
À Rage Against le matin. Comment tu vas?
Vous êtes gentil, merci, je vais bien.
Ça bouge, ça brasse pas mal. On va y aller un petit peu dans l'ordre des choses cette semaine. Puis j'aimerais commencer, Jacinthe Eve, avec tes impressions sur la démission du ministre Fitzgibbon et la suite et l'impact des choses pour la CAQ.
Bien, la première chose, c'est qu'on n'est plus au premier élu qui claque la porte avant la fin de son mandat. Et ça, ça alimente le cynisme des citoyens, des électeurs envers les politiciens parce qu'on se rend compte que c'est rendu de plus en plus normalisé ou banalisé cette attitude-là face à un mandat que nos électeurs nous ont donné pour 4 ans, de partir avant pour toutes sortes de raisons qui ne sont pas nécessairement des raisons de santé graves. Alors ça, c'est la première observation que je me fais, c'est ça, parce que on est en train vraiment de normaliser ça.
Que c'est bien correct.
C'est bien correct. Donc,
pas grave, on fait une petite sélection partielle.
500 000, ouais, donc.
C'est ça.
Ben exactement. Puis là, ben, on va attirer quel genre de politicien avec cette normalisation-là. Parce que là, avant, on réfléchissait comme il faut. On se disait, avant de mettre mon visage sur une pancarte, avant de faire une campagne électorale, avant de vouloir m'engager, je vais y réfléchir beaucoup parce que c'est ma famille qui va écoper, c'est mon couple pendant au moins 4 ans. Puis souvent, on espère faire 2 mandats. Mm-hmm. Donc, on se lance en politique souvent pour 2 mandats consécutifs, même si c'est dans l'opposition. Alors, maintenant, ben, y a peut-être des gens qui vont penser se lancer en politique en se disant, ben, de toute façon, je m'en vais.
Mais le pire, c'est que ça risque d'être de pire en pire parce que même si on sort de la politique, c'est comme, tu sais, mettons, ma génération, le monde de mon âge, je regarde autour de moi, ça fait une job, ça reste là 2 mois, m'a allé ailleurs un petit 3-4 mois. Ah, Colin, c'est peut-être plus vert chez l'autre voisin, m'a allé là. Fait qu'à un moment donné, c'est cette génération-là qui va arriver en politique.
Oui, exactement. Alors, on est en train de leur paver la voie pour venez-vous-en en politique, il n'y a pas trop de problèmes avec ça. Bon, pour le moment, c'est teinté par le parti de la CAQ. Alors, on se dit maintenant, c'est-tu rendu un parti... Il y a combien de pas fiables dans l'équipe?
Oui. Bien, c'est-tu aussi, puis là, je te pose la question, parce que le premier ministre est trop encadrant, il est trop structurant, il veut trop prendre de la place, parce que dès hier, devant la Chambre de commerce de Rimouski, il a dit « Hey, écoutez, on va en développer de l'éolien, puis on n'a pas de problème d'énergie », alors que Pierre Fitzgibbon disait « Partez vos lave-vaisselle la nuit parce qu'on n'a pas assez d'énergie ». Il y a un discours complètement contraire des deux hommes à l'heure actuelle, puis Pierre Fitzgibbon dit à LCN « Non, c'est pas mon ami, c'est un partenaire
». Bien, c'est clair que la Coalition Avenir Québec, c'est un parti très centralisé autour du premier ministre et d'une clique autour de lui. Donc, c'est un parti où le pouvoir est très centralisé. C'est leur façon de fonctionner. Est-ce que c'est ça qui fait en sorte qu'à un moment donné, il s'est quand même entouré de gens avec des personnalités fortes, avec du bagage solide aussi? Donc, est-ce que ça fait qu'à un moment donné, ces gens-là, quand ils font moins partie de cette ligue-là, c'était pas le cas de Pierre Fitzgibbon, il en faisait certainement partie. Mais à un moment donné, des divergences d'opinion, justement, peuvent mener à délaisser le territoire. Oui, c'est un piège. C'est certainement un piège, mais il y a autre chose qui explique cette démission là, ou cette perte de motivation de la part de ses troupes. Puis c'est pas juste la perte de motivation, là, aller jusqu'à claquer la porte puis partir. Ça porte à réflexion sur ce qui se dit à l'intérieur de ce parti-là.
Oui, ouais. Et le premier ministre veut bien s'entourer. Parlant de bien s'entourer, Christine Fréchette va être nommée la super ministre de l'économie et de l'énergie. Qu'est-ce que tu penses de cette décision-là, ce choix-là?
Bien, Christine Fréchette est actuellement, jusqu'à maintenant, ministre de l'immigration et elle est très appréciée parce que je la comparais à une bonne élève. Donc, elle est polie, courtoise, elle fait ses devoirs, elle prépare ses rencontres, elle donne ses suivis. Donc, elle est réputée dans le milieu des affaires, dans le milieu politique aussi, pour être à son affaire. Et c'est ce que probablement on a besoin au portefeuille de l'économie. C'est peut-être que ce dont a besoin François Legault. Donc, une bonne élève qui va être à ses affaires puis qui va suivre la trace qui a été prévue par le premier ministre et son entourage. Donc, moi, j'y vois... Et bon, Christine Fréchette est issue du milieu des affaires. Donc, c'est un portefeuille qui va être agréable à mener pour elle.
Pour la gestion de l'énergie, puis là, ça va être le projet de loi qui va commencer à être débattu dès mardi. Est-ce la bonne personne? Moi, j'aimais l'hypothèse que oui, parce qu'on va être capable de rassembler les oppositions, ce que Pierre Fitzgibbon n'aurait pas été capable de faire par son tempérament et sa personnalité.
Oui, ça prend quelqu'un de rassembleur, ça prend quelqu'un qui va être capable de travailler en coalition, mais ça va être quelqu'un aussi qui va être capable de respecter l'autorité ou du moins être en capacité de bien s'entendre. Il ne faut pas oublier, hein, il y a quelqu'un dans l'équation, là, c'est le PDG d'Hydro-Québec, là, oui. Michael Sabia. Michael Sabia, c'est une personnalité forte, c'est un homme d'envergure qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Alors, ça prenait aussi un autre type de leader que Pierre Fitzgibbon pour s'entendre avec Michael Sabia, je pense. Moi, j'y vois Christine Fréchette comme un choix stratégique aussi pour être capable de travailler avec Michael Sabia. Deux coques ensemble, c'est pas toujours facile. Ouais.
non, ça aurait brassé. Mais quand tu dis tantôt, on sait pas tout ce qui se passe à l'interne, là, ben peut-être que ça brassait des gens, Sabia, puis Pierre Fitzgibbon.
Oui. Et le fameux projet de loi dont on parle là, sur l'énergie qui va être étudié à partir de la semaine prochaine, à partir de mardi prochain, c'est le projet de loi 69. Et c'est quelque chose de substantiel. Quand vous entendez parler, là, parce que j'entends dans les médias depuis hier, là, puis M. Legault disait va falloir avoir un grand débat de société sur l'électricité, tout ça. Là. Je rappelle que une des notions clés là, de ce projet de loi-là, il y en a plusieurs, mais dans le projet de loi 69 sur l'énergie, c'est aussi la modulation des tarifs. Hein? Parce qu'en ce moment, le tarif, il y a trois tarifs. Puis faut vraiment bien spécifier qu'il y a trois tarifs à Hydro-Québec, là, trois catégories de tarifs résidentiels. Donc, nous, au résidentiel, le commun des mortels, on paye 85% de ce que ça coûte l'électricité, produire l'électricité et l'acheminer chez nous. L'industriel paye environ 103 à 105 % de ce que ça coûte, donc 3 à 5 % un peu de plus que le prix coûtant. Et le commercial, c'est 133 %, 134 %. Le commercial, là, c'est les PME, c'est vos commerces que vous fréquentez au quotidien. Là. Quand eux payent plus que les industriels, que les alumineries, que les papetières,
ça,
okay,
pas de bon sens.
Ben, ça se répercute dans votre portefeuille. Ouais. Individuel. Ouais. Puis ça, il faut le garder en tête. Puis en ce moment, il y a des hausses tarifaires qui sont encore prévues pour le commercial. Les commerces n'en peuvent plus, les PME n'en peuvent plus parce que ça les égorge. Et éventuellement, ils n'ont pas le choix que nous refiler la facture. Alors, il y a une pression énorme au niveau des tarifs d'électricité sur le commun des mortels. Puis quand on a ce fameux débat-là, ah, ben faut-tu payer plus cher notre électricité à la maison? Faut-tu faire payer plus cher le commun des mortels? Mais on a déjà une pression énorme indirecte via le commercial. Il est peut-être temps aussi de regarder nos papetières, nos alumineries, les grands industriels, les centres de données. Les centres de données qui ont énormément de blocs d'électricité.
Ça pousse.
Et ils ont des déductions d'impôts, ils ont des crédits d'impôts. Alors, même en ayant des tarifs préférentiels, ils n'ont pas les avantages qu'on a dans nos maisons. Alors, il va falloir porter une bonne attention là-dessus.
J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec Jean-François Roberge à l'immigration, parce qu'on parlait du profil de Mme Fréchette. Bon, réutilisons le terme bon élève, brassait pas trop. Tu sais, des fois, elle était capable de sortir les déclarations un peu plus choc, mais généralement, ça se passait assez bien. Jean-François Roberge, j'ai l'impression que ça risque de brasser davantage avec le fédéral. Est-ce que tu sens ça aussi?
Oui, bien, c'est un politicien qui est reconnu pour son franc-parler. Donc, son audace, je dirais, ou parfois même il a été décrit comme un peu arrogant dans certains dossiers. Alors, mais c'est ce qu'on a de besoin si on veut avoir quelqu'un qui négocie et qui rapporte des gains avec le fédéral. Ça va prendre justement cette audace, cet affront-là ou cette presque arrogance avec le fédéral pour être en mesure de les accoter un peu plus au pied du mur puis faire des concessions plus importantes.
Jacinthe-Ève. Ah, oh, non, vas-y, vas-y, termine
on a,
ta
on
pensée.
La, ben, j'allais dire, on a la bonne personnalité, je pense, avec Jean-François Roberge, parce qu'il a aussi soif d'avoir plus de dossiers. En ayant perdu le portefeuille de l'éducation, il avait été quand même déçu, c'est ce qu'on dit dans le milieu. Alors là, il avait soif d'avoir plus de responsabilités. Alors là, ben, quand on a soif, puis que finalement, on finit par nous donner un défi, ben, on veut le relever pour faire ses preuves.
Sautons maintenant au niveau fédéral. Le NPD déchire l'entente avec les libéraux. Jacinthe-Ève, est-ce qu'on part en campagne électorale bientôt?
Je pense pas.
Okay.
Officiellement, je pense pas. Je pense qu'on tombe en campagne électorale symbolique. On le voit déjà, il y a de l'argent qui se dépense, puis il y a des publicités qui ont lieu en ce moment des différents partis politiques, mais qui ne comptent pas dans le budget d'une campagne électorale parce qu'on n'est pas officiellement en campagne électorale. Mais à la fin novembre, il va y avoir l'énoncé économique qui va être présenté par le gouvernement de Justin Trudeau. Et ce sera la première occasion pour Justin Trudeau de se soumettre à un vote. Mais est-ce que le NPD sera prêt à se lancer en campagne et désavoué tout de suite dès l'énoncé économique à la fin novembre? Je ne pense pas parce que justement, ils l'ont dit en déchirant l'entente. Le NPD a dit il faut qu'on se dissocie davantage des libéraux puis il faut qu'on montre aux Canadiens qu'on est différents d'eux. D'ici novembre, ils n'ont pas le temps de faire ça. Donc, j'ai l'impression que ça va peut-être aller plus au début du printemps, okay. Là où il y aura le dépôt du budget. Donc, l'énoncé économique fin novembre, c'est une première occasion. Ça pourrait arriver, mais est-ce qu'on va se lancer en campagne électorale juste avant les fêtes? Alors que il y a aussi trois élections provinciales au Canada qui vont se dérouler en même temps, Nouveau-Brunswick, Colombie-Britannique, Saskatchewan. Donc peut-être que tout le monde va se dire allons-y pour le printemps. On n'écœurera pas les Canadiens dans trois provinces avec deux élections et avec une campagne électorale dans le temps de Noël. Mais en même temps, comme on sait que c'est imminent, ben, tout le monde tombe en mode électoral.
On a beaucoup décrié la façon de faire de Pierre Poilievre dans les médias de Québécois cette fin de semaine. Mais est-ce qu'il vient de gagner son pari parce qu'il a attaqué le chef du NPD durement au début de la semaine, lundi, et là, on a l'entente qui se déchire le mercredi?
Oui, bien, ça lui sert bien parce que quand on fait des... Les gens ont la mémoire courte, les médias sont remplis d'informations et là, ça lui sert bien la situation parce qu'il vient juste de mettre au défi le NPD de déchirer l'entente et à moins d'une semaine, le NPD procède. Donc, ça donne des points au Parti conservateur pour démontrer qu'il fait une belle lecture ou une lecture juste du portrait actuel. Donc, c'était un bon coup de la part du Parti conservateur de miser sur ça parce que finalement, ben, on démontre qu'on connaît bien les cartes, on connaît bien le jeu, on a une lecture très, très juste de ce qui se passe puis de l'avantage et des inconvénients de chaque joueur puis où devraient se situer les parties. Donc, franchement, ça oui, il a été dur, mais pour le moment, je pense qu'il y a des gains à retirer de ça.
Qu'est-ce qui se passe, Jacinthe, avec le Bloc, maintenant qu'on a déchiré l'entente du côté du NPD avec les libéraux? On a effleuré un peu l'idée que le Bloc était pogné un peu entre l'arbre et l'écosse maintenant, entre les conservateurs et les libéraux. Comment tu vois ça?
Bien, le Bloc québécois a aussi beaucoup de travail à faire pour se démarquer du Parti libéral, hein, parce que le Bloc appuie souvent beaucoup les projets proposés par le Parti libéral. Alors, il y a une espèce de quand même un consensus idéologique quand même assez commun autour du NPD, des libéraux, du Bloc québécois dans les dernières années. Leur façon de fonctionner n'a pas été de jouer des oppositions très, très fortes sur des dossiers très marquants. Hein. On regarde dans l'actualité, on regarde ce qui s'est passé au fédéral. Il n'y avait pas de grande opposition forte. Il y avait une opposition forte qui s'est dessinée avec le temps, c'est les conservateurs. Mm-hmm. À part ça, il y avait quand même beaucoup de consensus autour de bien des projets de loi, bien des idéologies. Donc, je vois le Bloc québécois comme étant privilégié parce qu'il a une position quand même, il est en belle posture au Québec, mais cette posture-là, il va falloir qu'il la clarifie puis il va falloir qu'il se démarque du Parti libéral parce qu'en ce moment, ça porte à confusion si je vote pour les libéraux, si je vote pour le Parti québécois. À part la fameuse phrase de veiller aux intérêts du Québec ou des Québécois, à part ça, là...
On est pas mal les mêmes politiques. Ah ouais. C'est comme Québec fort et fier puis Québec d'abord. Ouais. On ne sait plus qui est quoi.
Oui, c'est ça.
Parlant de la ville de Québec, justement, qu'est-ce que ça veut dire pour Québec, peut-être des élections hâtives? Parce que là, je fais juste penser au tramway. T'sais, les libéraux sont pour, Pierre Poilievre est contre. Le troisième lien, les libéraux en veulent pas, Pierre Poilievre en veut un. Ça amène-tu Québec, puis même le gouvernement de la CAQ, à jouer ces projets-là différemment?
Oui, certainement, c'est bouillonnant à Québec. Pour nous, ça nous touche énormément parce qu'il y a plusieurs projets qui dépendent de ça. Tu l'as nommé, le lien périphérique ou le nouveau lien, le projet du tramway.
Bravo, t'as pas dit troisième lien.
Bien, puis on peut même penser aux annonces qui ont été faites pour le chantier des vies à Lévis. Il y a des annonces qui ont été faites par le gouvernement fédéral. Mais les annonces ont été faites, mais comment ça se dessine dans l'avenir? S'il y a des changements de gouvernement au niveau fédéral, ça engendre tout un lot d'incertitudes, à moins que les choses soient signées et couler dans le béton. Alors, ça va être à suivre. Et c'est là où on a un maire de Québec, on a une équipe autour du maire de Québec qui aurait tout avantage à créer des alliances ou travailler en collaboration, peu importe les idéologies. Mm-hmm. Parce que quand on choisit trop son camp dans d'autres paliers de gouvernement, ben, on peut avoir des surprises lors d'une éventuelle élection, qu'elle soit précipitée ou non. Ça va être difficile de travailler avec les conservateurs. Si les conservateurs viennent au pouvoir, puis qu'on a passé notre temps à critiquer les conservateurs, alors qu'on est dans une administration municipale. Alors, faut travailler son terrain. Puis son terrain, c'est pas juste auprès des électeurs. Son terrain, c'est aussi les collaborateurs sur les autres paliers. Donc, c'est important de travailler en collégialité. Puis la partisanerie est faite pour, durant les campagnes électorales, sur ton palier à toi, mais de la partisanerie puis du militantisme, quand on est un élu, quand on est une équipe autour d'un élu, c'est pas une bonne idée dans les autres paliers parce qu'on a besoin que, peu importe que ce soit le NPD, les libéraux, le Bloc, les conservateurs qui s'en vont là, on a besoin d'avoir le maximum d'alliés dans toutes les équipes pour être capable de faire avancer nos projets parce qu'on a été élus pour la ville de Québec. On n'a pas été élus pour l'environnement. On n'a pas été élus pour sauver la planète. On a été élus pour les citoyens de la ville de Québec. Et les citoyens de la ville de Québec ont besoin que les projets avancent. Peu importe qui sera au pouvoir, qui va signer l'échec.
Très bon point.
Tellement bien dit.
On termine là-dessus.
C'est pour ça qu'on aime Jacinthe.
Hey, notre chroniqueuse politique, Jacinthe Ève Harel, deux fois plutôt qu'une cette semaine, puis c'était bien apprécié.
Ben oui.
Pas le choix qu'on jase quand ça brasse comme
ben
ça dans
oui.
le monde politique.
C'est des tornades qui arrivent.
Ben
c'est...
Voilà. Hey, merci pour ça.
Merci.
Passe
bonne journée.
Boulevard.